Quelle nostalgie plus profonde pouvons-nous avoir que celle d'abolir le temps ?
Jérusalem, il y a un siècle.
Jérusalem est par excellence la ville ambiguë, où les mêmes signes peuvent aveugler et éclairer. Mais je crois qu'on y trouve plus de lumière que de ténèbres.
Un texte de Pierre Loti peu avant qu'en 1917, les troupes du général britannique Allenby s'installent dans la ville que vient d'abandonner l'administration ottomane. Le raidissement communautaire avait commencé dès avant la Grande Guerre, mais le passage sous contrôle britannique va provoquer la disparition du subtil système de balance et d'équilibre de l'Empire ottoman. Le mandat confié aux Britanniques par la Société des Nations creusera en plus les contradictions. Aux Britanniques, il est en effet demandé de favoriser l'éclosion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais quel peuple ? La déclaration Balfour, la même année, 1917, avait reconnu la nécessité d'un foyer national juif. Et les sionistes se faisaient de plus en plus actifs à Jérusalem. D'un autre côté, les Britanniques soutenaient plus ou moins discrètement divers mouvements nationalistes arabes. Après 1917, l'affrontement s'est donc incontestablement aggravé. Mais qu'en était-il dans les décennies qui avaient immédiatement précédé ? Il faut bien reconnaître, fin 19e, début 20e, une dynamique à Jérusalem. Dynamique venue de l'extérieur. Les pèlerinages chrétiens qui s'organisent sur un mode intensif redessinent les lieux saints. Dynamique endogène aussi. Jérusalem, 70 000 habitants en 1910, s'est étendue à ce point qu'elle compte déjà la moitié de sa population extramuros. Aujourd'hui, qu'elle en totalise plus de 800 000, les défis démographiques sont bien plus graves, les conflits de mémoire devenus asphyxiants, retour sur un moment où davantage de possibles étaient encore ouverts.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter.
En compagnie de Vincent Lemire, bonjour.
Bonjour.
Ah, on pourrait trouver 10 titres à l'émission que nous allons faire ensemble. Rembobinage, c'est pas mal. Hein. Vous avez animé une émission d'histoire sur Aligre.
Ouais, Radio pendant Aligre. 10 ans. Ouais.
Rembobinage, pas mal. Le titre de votre thèse, La soif de Jérusalem. Excellent aussi.
Parce qu'on parlait d'eau et parce que le monde entier a soif de Jérusalem.
L'hydroélectricité va être un de nos fils, l'hydrohistoire va être un de nos fils avant même que l'hydroélectricité ne soit développée dans cette émission. Vous avez publié un livre qui s'appelle Jérusalem en 1900, pas mal aussi pour notre sujet, ça va être la séquence, hein, avant 1900 jusqu'au lendemain peut-être des années 30. Et puis, vous publiez avec toute une bande, je vous laisse nommer les uns et les autres.
Hein. On a Catel Berthelot, Yann Potin, Julien Loiseau et moi-même.
Une histoire très ambitieuse de Jérusalem comme ville-monde, c'est dans la collection Champs chez Flammarion. Tel ou tel de ces auteurs participe à un projet très vaste, pas mal comme titre aussi, Open Jérusalem.
Open Jérusalem, pour une histoire ouverte, pour ouvrir le plus d'archives possible et pour surtout ouvrir les différentes massifs documentaires les uns aux autres.
Mais vous parlez beaucoup de langues, vous
J'en parle un certain nombre, mais pas bien. Mais j'ai l'habitude depuis 20 ans de travailler avec ceux qui les parlent et qui les lisent très bien.
C'est une chance de ne pas parler très bien toutes les langues de la région.
J'ai l'habitude de dire dans des colloques entourés d'éminents orientalistes. Moi, je parle assez mal ces langues, mais du coup, je travaille beaucoup avec les chercheurs sur place et qui, eux, les lisent parfaitement, comme nous, on lit le journal.
Donc vous les prisonniers d'aucun champ.
Je ne suis prisonnier d'aucun carton d'archives.
Ouais. Flammarion, la collection Champs, c'est évidemment Champs au pluriel. Alors, Pierre Loti, dont on entendait déjà un écho en exergue de cette émission, voici ce qu'il écrivait en 1894, dans un ton qui était assez commun à beaucoup de visiteurs occidentaux de Jérusalem à l'époque.
J'y arrive par le côté de l'islam qui est dans une ombre presque crépusculaire, quand, en face, les myriades de tombes juives, les ruines de Siloé et d'Ophel, avec leurs cavernes et leurs sépulcres, resplendissent encore dans un rouge fantasmagorie. Chaque soir, depuis toujours, il en va de même. Et c'est l'inverse des matins où le rose des aurores commence par envahir le côté musulman, tandis que le côté d'Israël tarde à s'éclairer. Entre les deux zones de cimetière qui se regardent, c'est sans trêve le même jeu, les mêmes alternances de lumière renouvelées indéfiniment. Ce soir, elle est vide à son ordinaire, la vallée de Josaphat. À peine dans toute son étendue apercevrait-on, çà et là, accrochés au flanc des collines, quelques bergers bédouins gardant des chèvres. Elle est vide et sombrement recueillie. À travers son silence, des appels d'oiseaux, et puis en différents points, des lointains, le petit martelage sec et sonore des sculpteurs de tombes, éternellement occupés à la vaine besogne de graver des noms sur des pierres. Les cimetières de cette vallée ne chôment jamais, et la terre y travaille jour et nuit à absorber des cadavres.
À l'entrée de la séquence qui va nous intéresser, fin 19e, début 20e siècle, on est dans cette longue tradition de description crépusculaire.
Oui, c'est Chateaubriand qui a lancé cette tradition au début du 19e siècle, du haut du Mont des Oliviers déjà, où les Européens en fait quittent l'Europe, et l'Europe est en train de se déchristianiser et viennent à Jérusalem et en Terre Sainte en général pour retrouver un petit peu leur sensation chrétienne, alors qu'ils soient très chrétiens comme Chateaubriand ou déjà pratiquement plus comme Loti. Mais en fait, c'est ça qu'ils viennent chercher. Et ils décrivent tous une ville vide d'âme, vide d'activité, silencieuse, sépulcrale. Ils parlent systématiquement du cimetière. Chateaubriand va encore plus loin parce qu'il décrit la ville elle-même comme un cimetière. En fait, ce qu'on comprend, c'est que ce qu'il regarde, c'est le Saint-Sépulcre avec autour un vaste cimetière.
Alors, la recherche des lieux saints comme lieu pour recharger les batteries des catholiques. Fin 19e siècle, c'est le développement des pèlerinages catholiques. Les pères de l'Assomption construisent de la même pierre que les remparts, la maison Notre-Dame de France, le couvent Notre-Dame de Sion, etc.
Oui, il y a un investissement extrêmement important. Il faut comprendre quand on arrive à Jérusalem aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a sous les yeux une ville qui s'est entièrement inventée, réinventée et fabriquée en fait à la fin du 19e siècle, avec parfois des styles un petit peu archaïsants, qui fait qu'on peut avoir l'impression d'être dans une ville très très ancienne, mais en fait, la plupart de ces grands bâtiments sont de la fin du 19e. C'est Dominique Trimbure qui a beaucoup travaillé sur ces grands pèlerinages catholiques, et c'est vraiment la fin du 19e siècle, l'invention de ces pèlerinages.
Alors le père assomptionniste qui inventait les pèlerinages catholique français, c'était à cheval qu'il les faisait. Maintenant, c'est plutôt en autocar. Alors, excusez le léger anachronisme de la séquence qui vient.
Alors, encore quelques minutes et on contemplera Jérusalem. Pauline, vous préparez les chants ?
Mon Dieu, pourquoi m'as-tu
Car c'est dans ce lieu, au pied de la muraille de Jérusalem et du Mont des Oliviers, que Jésus a prié pour la dernière fois avec ses disciples avant d'être arrêté.
Entrer cette nuit lumineuse dans ce jardin avec le Christ, c'est le suivre dans sa traversée pascale de mort et de résurrection.
Alors le jardin, le Saint-Sépulcre, il y a toute une logique qui s'établit de fédération des lieux saints avec une archéologie biblique qui l'accompagne.
Oui, il faut que ça fonctionne, en fait. C'est une espèce de Bible en miniature qu'il faut reconstruire. Il faut que les pèlerins puissent s'y retrouver, il faut que ça aille vite, il faut que ça circule, il faut qu'il y ait un endroit par lequel on commence et un endroit par lequel on termine. C'est un circuit. Donc si ça colle pas, on s'arrange. Et par exemple, la Via Dolorosa, le chemin de croix, qui pendant des siècles et des siècles était orienté du sud vers le nord, donc plutôt, on va dire, de la colline de Sion vers le Saint-Sépulcre. Saint-Sépulcre, on peut pas le bouger, c'est le problème.
On peut juste le diviser.
Voilà, on y reviendra, mais cette Via Dolorosa, elle a été sud-nord pendant des siècles, et puis à un moment, elle est devenue est-ouest, parce que ça collait mieux, puisque le Mont des Oliviers est à l'est, ça non plus on ne peut pas le bouger. L'arrestation de Jésus, c'est sur le Mont des Oliviers, donc c'est beaucoup plus logique de faire démarrer la flagellation, la condamnation, Pilate, etc., à l'est. Et donc aujourd'hui, on a un chemin de croix est-ouest. Donc en fait, raconter tout ça, ça permet un petit peu, en reprenant les cadres interprétatifs de Maurice Alvax, dont je me sers beaucoup dans Jérusalem 1900, de rappeler que ce patrimoine, ces lieux saints, c'est bien des fabrications du présent. Et ils ne nous viennent pas du passé, ils nous viennent du présent. Il n'y a qu'à regarder une carte. Il y a 10 fois, 100 fois plus de lieux saints au milieu du 20e siècle qu'au milieu du 19e.
Alvax a publié tardivement une topographie légendaire qui, du coup, est peut-être moins connue que d'autres travaux qu'il a multipliés sur les mémoires collectives, où il dit qu'il y a à l'œuvre une logique de concentration, une logique de morcellement, puis aussi la logique de dualité. Je parlais de la division du Saint-Sépulcre. Les protestants désespérant de s'insérer dans la zizanie du Saint-Sépulcre entre les différentes confessions, eux ont inventé la tombe du jardin.
Ça, c'est une très très belle histoire. C'est une très belle histoire parce que la tombe du jardin fonctionne encore aujourd'hui et elle attire d'ailleurs de plus en plus de monde parce que elle est plus, je crois qu'elle correspond mieux aux attentes des pèlerins d'aujourd'hui. C'est silencieux, c'est calme, on entend les oiseaux. C'est un vrai jardin. Alors que le Saint-Sépulcre, on n'imagine pas du tout Marie-Madeleine arrivant là-dedans et rencontrant le jardinier, quoi. Les protestants, effectivement, à la fin du 19e, alors les protestants, c'est qui? C'est des Américains, c'est des Allemands, c'est des Anglais. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des Éthiopiens, des Arméniens et des Grecs qui les empêche d'accéder au Saint-Sépulcre. L'équilibre des forces étant celui de la fin du 19e, ils supportent pas ça. Et donc, ils vont en fait lancer plein de campagnes archéologiques pour d'abord contester la véracité de la localisation du Saint-Sépulcre traditionnel, qu'on visite encore aujourd'hui, et en trouver un autre. Alors, ils cherchent une tombe romaine du 1er siècle, il y en a des centaines. Ils en cherchent une qui se ferme avec une pierre roulée, il y en a des dizaines. Ils en cherchent une qui est vide, parce qu'évidemment, s'il y a un cadavre à l'intérieur, c'est pas bon. Il y en a encore quelques-unes. Et finalement, ils vont arrêter leur choix dans les années 1860 sur une tombe, parce qu'il y a une très grande citerne devant. On revient à l'hydrohistoire. Et comme on sait que cette tombe avait été appartenait à Joseph d'Arimathie, que Joseph d'Arimathie était très riche, on se dit, tiens, là, il y a une très grande citerne, ça devait être un propriétaire terrien riche. Allez, hop. Et c'est celle-là qui va devenir la tombe du jardin.
Quand on visite la vieille ville, on a toujours dans nos guides la division en quatre quartiers, chrétiens, arméniens, juifs, musulmans, qui vient de l'empreinte du milieu des pèlerinages chrétiens. Et vous dites, ça serait quand même intéressant d'aller voir du côté des archives, les archives ottomanes. Les archives ottomanes qui sont à Istanbul, qui sont gigantesques.
Qui sont gigantesques. Il y a des dizaines d'années de travail pour des centaines de chercheurs. Il y a 6 siècles d'histoire d'une partie de l'Europe et de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Et la République turque, en plus, a fermé ses archives dans les années 1920, n'a pas voulu s'en occuper parce qu'elle était vraiment dans un projet de laïcisation, de construction de la République turque. Donc c'est que depuis une quinzaine d'années, en fait, que les chercheurs turcs, en fait, se réottomanisent d'une certaine manière.
Et sont assez nombreux pour être capables de lire l'écriture ottomane.
Voilà, l'écriture ottomane, il faut le rappeler, qui est du turc.
Avait renvoyé aux enfers.
Voilà, c'est du turc ancien rédigé en arabe.
Alors, on va prendre un ou deux exemples de la dynamique que vous reconnaissez à l'administration ottomane, parce que ce n'étaient pas des pachas incultes et sanguinaires qui étaient gouverneurs de Jérusalem.
Ah non, quand on les regarde de près, c'est souvent des gens qui parlent 5-6 langues, qui écrivent de la poésie, qui éduquent leurs enfants dans les meilleures écoles européennes. Enfin.
Et il y avait aussi une administration municipale composée de notables qui a pris de plus en plus d'importance. Et à cette administration double, impériale et locale, on doit des routes, l'installation d'un chemin de fer. Il y a un chemin de fer dès 1892.
1892, oui.
Avec capitaux français, concessionnaires juifs, inauguration.
Inauguration
musulmane impériale.
Ouais, on va égorger des béliers sur les voies, ce qui scandalise d'ailleurs un des correspondants de la presse catholique locale, parce qu'il dit c'est quand même des capitaux français.
Et puisque vous avez une spécialité qui est l'hydro-histoire, elle montre cette spécialité que la maîtrise de l'eau, elle est partagée entre l'ingénieur ottoman, l'archéologue catholique, le concessionnaire spéculateur, l'usager mécontent, etc.
Oui, en fait, faire de l'hydrohistoire, c'est-à-dire faire l'histoire de Jérusalem par l'eau, regarder Jérusalem à travers une goutte d'eau, ça permet en fait d'aborder toutes ces questions-là, ces questions patrimoniales, parce qu'évidemment les réseaux d'adduction d'eau, ils sont souterrains, donc ils durent très très longtemps. Les questions d'administration, parce qu'il faut amener de l'eau potable à la population, et puis petit à petit les questions stratégiques et géostratégiques, parce que on le verra tout à l'heure, à l'époque du mandat, on va commencer à se disputer quand même pour l'eau potable.
Mais on reste, si vous le voulez bien, avant la révolution jeune turque de 1908, au plus haut de l'Empire en 1907. Quand est construit un monument dont on se souvient peu, mais qui signifiait qu'il y avait possibilité de régulation par les autorités ottomanes et locales de la vie des différentes communautés?
Et dites-moi, monsieur le maire, quelle est cette tour affreuse surmontée d'une horloge?
Il s'agit précisément de la tour de l'horloge de la porte de Jaffa.
Elle est de construction récente, n'est-ce pas?
En effet. Elle a été inaugurée en 1907, il y a tout juste 10 ans.
Ah. Et on peut savoir pourquoi diable avoir construit cette horloge monumentale à cet endroit-là?
Justement, pour qu'elle soit visible de chaque coin de la ville, cette horloge a été financée à l'initiative de la municipalité par une souscription citadine intercommunautaire et interconfessionnelle. C'est une fierté des habitants de Jérusalem. Si vous y réfléchissez, c'est d'ailleurs le seul monument de la ville qui n'est attaché à aucune religion en particulier.
Pour connaître, on a un petit peu modifié, mais vous savez, les archives radiophoniques peuvent être montées. Différence avec les archives papier, peut-être. Vous reconnaissez une production familiale, là. Un extrait sur France Inter.
Romain Lemire et Vincent Lemire, 2012.
Ouais, au fil de l'histoire.
Au fil de l'histoire.
Auteur de l'œuvre préexistante, Romain Lemire, Vincent Lemire. C'est très important pour vous, cette tour de l'horloge?
Mais c'est pour ça que je l'ai fait figurer en couverture de Jérusalem 1900, la ville sainte à l'âge des possibles. On l'a même repris là dans la réédition en point seuil. Parce qu'effectivement, d'abord, c'est un monument qui dure très peu de temps. Il est inauguré en 1907 et il est détruit en 1922. Et c'est un monument qui est quand même plus élevé que le dôme du Rocher, en plus en position bien plus éminente. Les témoignages de l'époque nous disent qu'on le voit depuis Bethléem la nuit, parce que les horloges sont évidemment lumineuses. Et surtout, c'est un monument qui donne une heure, la même heure à tout le monde. C'est-à-dire qu'il permet tout simplement à des gens de se donner rendez-vous sans avoir à dire si c'est avant la prière ou après la prière, parce que si ces gens-là, si l'un va à la synagogue, l'autre à la mosquée ou le troisième
c'est un beffroi, quoi.
À l'église, oui, c'est un beffroi municipal, citadin, qui permet de scander une heure, les cloches sonnent. Et d'ailleurs, au moment de la révolution de 1908, tout va se faire en grande partie autour de cette fameuse tour de l'horloge.
Révolution modernisatrice qui aboutira à la première rétrogradation du sultan. Bref, à ce moment-là, moralité, je ne sais pas si on peut dire moralité quand on lit un livre de Vincent Lemire, il y avait d'autres possibles que ceux qu'on a connus depuis. Cette chanson, vous allez aussi la reconnaître.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Vincent Lemire, comme vous êtes un confrère, je veux dire un ancien radioteur, vous animiez Rembobinage chez nos camarades de Radio Ali. Je vous laisse faire la désannonce.
Mais Férouz, en fait, c'est une reprise de Férouz. C'est une chanson de 1967, Zahrat al-Madine, la fleur des cités, Jérusalem.
Avec Dorsa Femdani ici.
Voilà, c'est une chanson que tout le monde arabe a écoutée après 1967.
Alors, n'allons pas trop vite. 1967, on en parlera au mois de mai, au moment de l'anniversaire de la guerre des six jours. Avec vous, nous parlons, Vincent Lemire, de Jérusalem il y a un siècle. Dès avant la guerre de 14, on avait laissé une Jérusalem avec toutes sortes de possibles ouverts devant elle. Il faut quand même noter des durcissements, notamment parce qu'une nouvelle carte est entrée dans le jeu. Le sionisme prend son élan.
Oui, congrès de Bâle, 1897. Le maire de Jérusalem, Youssouf Zia al-Khalidi, Joseph Khalidi, dans les archives françaises, écrit à Théodore Herzl dès 1898 en français pour lui dire qu'il est tout à fait au courant de ce projet sioniste et qu'il préconise vraiment un sionisme hors de Palestine. Hein, dans le mouvement sioniste à l'époque, jusqu'en 1905, il y a un débat entre ceux qu'on appelle les Palestiniens, qui sont en fait les sionistes qui veulent s'installer en Palestine et ceux qui veulent s'installer en Ouganda ou ailleurs. Et Joseph Khalidi plaide en fait auprès de Theodor Herzl en tant que maire de Jérusalem pour dire les équilibres de cette ville vont être rompus par cette nationalisation des enjeux et par cette capitalisation, puisqu'il a bien compris que Jérusalem serait évidemment revendiquée comme capitale pour le...
Les sionistes qui s'installent à Jérusalem se multiplient pour tenter de prendre toujours l'hydroélectricité. Non, l'hydrohistoire, les concessions d'eau.
Oui, il y a une stratégie tout à fait explicite, hein, tout à fait passionnante d'ailleurs quand on travaille dans les archives centrales du mouvement sioniste à Jérusalem-Ouest, qui montre qu'en fait les sionistes sont tout à fait conscients qu'ils n'ont pas la propriété de la terre, ils n'ont pas la propriété du sol, et donc ils vont tenter d'avoir la propriété des réseaux. Hein, des lignes et des nœuds, donc à la fois des réseaux de communication et des réseaux d'adduction et des réseaux techniques de l'électricité, de l'eau, etc., des transports. Et effectivement, c'est une stratégie qui va tout à fait fonctionner, puisque ensuite, on va voir que ça permet hein, la maîtrise, une maîtrise du territoire sans même avoir la propriété du sol.
Autre explication des durcissements dès avant la guerre, l'ottomanisme intégrateur est renvoyé vers le passé. C'est la naissance du nouveau nationalisme turc qui va, pendant la Grande Guerre, mener la vie dure aux communautés juives et arméniennes de Jérusalem.
Jérusalem, c'est 70 000 habitants en 1914, 45 000 en 1917, hein, quand les Britanniques arrivent. Donc, et ces 25 000 habitants en moins, c'est effectivement essentiellement des Juifs et des Arméniens qui ont soit été expulsés, soit ont dû effectivement partir parce que sinon ils allaient être enrôlés de force dans l'armée ottomane. Là, je parle pour ceux qui étaient citoyens ottomans. Effectivement, deux communautés qui ont fortement souffert. La ville de Jérusalem souffre beaucoup de la Première Guerre mondiale.
Deux derniers mois de 17, accélération. En novembre est publiée la déclaration Balfour, qui reconnaît la nécessité d'un foyer national sioniste. Et en décembre, c'est la prise de Jérusalem par le général britannique Allenby. Vous allez reconnaître la dramatique dont vous êtes auteur de l'œuvre préexistante, Vincent Lemire, dans le rôle du général, c'est Jean-Marie Winling.
J'ai résolu de prendre Jérusalem dans les 48 heures, et je prévois qu'il s'agira d'une simple formalité.
Dans les 48 heures, mon général, mais comment ?
Par une manœuvre très simple et imparable. Le 21e corps s'avancera sur la route principale qui relie Jaffa à Jérusalem, pendant que la 52e division progressera au nord de la ville pour faire jonction avec la 75e division, coupant ainsi la route qui relie Naplouse à Jérusalem. Ajoutez à cela l'effet de surprise, et croyez-moi, messieurs, nous n'avons aucune raison de douter de notre victoire.
Mais enfin, mon général, voilà 4 siècles que les Ottomans tiennent Jérusalem. 4 siècles.
Vous avez raison, Lawrence. Très précisément 4 siècles. Mm-hmm. Mais les Ottomans ont bien d'autres soucis en ce moment. Et ne prenons pas le risque de combattre à l'intérieur de la ville sainte, j'en suis sûr. Et puis, Londres me presse d'accélérer et de mener à bien cette opération. Et surtout, j'aimerais offrir ce cadeau à la nation britannique avant Noël.
Alors la dramatique de France Inter n'a pas eu les moyens de reconstituer l'accueil du général Allenby. Il faudrait d'ailleurs entourer tout ça d'un voile de légende, on manque de moyens
matériels.
Et de Laurence
Darabi, on a entendu Laurence Darabi.
Ah bah oui, c'est une bonne concaténation, il y a tout dans votre dialogue. Le voile de légende qui entoure l'arrivée d'Allenby, vous essayez de l'écarter.
Ben, il faut l'écarter et en même temps, il faut en faire l'histoire. C'est le problème à Jérusalem. Il faut faire l'histoire de la ville et l'histoire de ses mémoires. Allenby, en arabe, on le prononce assez vite Al-Nebi, c'est-à-dire le prophète. Il entre à Jérusalem le jour de Hanouka et à quelques jours de Noël. Donc, il y a effectivement tout un légendaire autour de lui. Et en plus, il va prendre Jérusalem, en fait, on le raconte un petit peu là, mais par la colline de Nabi Samuel, qui est à quelques kilomètres au nord-ouest de la ville. Nabi Samuel, c'est Montjoie, hein, c'est le Mons Gaudi des croisés. Et tout ça n'est absolument pas un hasard, il y a toute une mise en scène, et quand on regarde d'ailleurs les films de propagande à l'Imperial War Museum qui sont diffusés dans les cinémas anglais à l'époque, c'est vraiment les nouveaux croisés qui reprennent Jérusalem.
Oui, parce que vous aimez bien regarder les films d'archives à Londres, l'Institut Lumière à Lyon.
Le premier film sur Jérusalem, 1897, hein, les Frères Lumière envoient une équipe, le cinématographe vient à peine d'être inventé, on a déjà les premières images animées.
On n'a pas d'image de la destruction de la tour de Jaffa en 1922, semble-t-il.
Jean, si quelqu'un peut en trouver, alors là, on n'a même pas d'archives, c'est quelque chose qui est fait un petit peu Voilà, c'est parce que c'est un monument qui clairement ne correspond pas à la vision britannique. C'est ni biblique ni ottoman, et donc c'est ni biblique ni ottoman première époque, je veux dire, et donc on casse.
Oui, mais la vision britannique, elle doit aussi s'accorder avec la vision de la Société des Nations qui donne en 1922 un mandat avec l'obligation de respecter l'émergence des mouvements nationalistes. Alors, c'est les mouvements nationalistes sionistes, c'est le mouvement nationaliste, ou je n'ose dire palestinien, on ne va pas s'embarquer dans la politique, les mouvements nationalistes arabes. On peut prendre un exemple. Alors, on pourrait citer les émeutes de 1920. C'est important, c'est connu.
Oui, les premières émeutes, avril 1920, pèlerinage musulman de Nabi Moussa. Le maire de Jérusalem participe à ce pèlerinage. Le rassemblement dégénère en émeute et les occupants britanniques démettent en fait de ses fonctions le maire de Jérusalem et le remplacent par quelqu'un qui est beaucoup plus conciliant. C'est le premier affrontement un petit peu nationaliste palestinien à Jérusalem.
Oui, mais on peut aussi prendre l'exemple, toujours le fil de l'hydrohistoire, de ce qui s'est passé après la grande crise pluviométrique de 1925.
Oui, alors ça c'était un des chapitres de ma thèse, du livre. En 1925, des villageois d'Artas. Artas, c'est où? C'est entre Bethléem et Hébron. C'est à une dizaine de kilomètres au sud de Jérusalem. Et depuis, on a à Artas des sources très abondantes et des grands bassins qui alimentent la ville de Jérusalem depuis l'époque biblique, en fait. Donc depuis des siècles et des siècles, les habitants d'Artas se plaignent en tant que pauvres paysans à qui on prend l'eau pour alimenter les bains publics des bourgeois de Jérusalem. La seule différence, c'est qu'en 1925, ils ne se présentent plus comme des pauvres paysans contre les bourgeois de Jérusalem, mais comme des Arabes contre les Juifs de Jérusalem. Et là, on voit que immédiatement, les conflits sont
dits. La réquisition des eaux villageoises est présentée comme une discrimination.
Voilà, comme discriminatoire, puisque la plupart de ceux qui vont en pâtir, c'est-à-dire les paysans d'Artas, sont arabes, et la plupart de ceux qui vont en bénéficier, c'est les habitants des quartiers modernes de Jérusalem, et donc c'est principalement des populations juives. À partir de ce moment-là, on va penser toutes les problématiques urbaines en termes identitaires, communautaires, religieux.
Les possibles, ce seront pour une partie refermée. Et c'est pas la conférence, est-ce qu'il faut lui donner ce nom, de ce week-end à Paris qui les rouvrira. Qu'est-ce que c'est cette conférence?
Ouais, c'est une conférence que la France s'était promise d'organiser et qui est in extremis avant le départ de Kerry et qui correspond un petit peu au discours testamentaire, au testament diplomatique de Kerry du 28 décembre et au vote de l'ONU. C'est une conférence qui va rappeler les paramètres, mais des paramètres qui sur le terrain n'ont pratiquement plus aucune prise sur la situation.
C'est-à-dire que Jérusalem ne devrait pas être divisée et que Jérusalem doit être, puisque ce sont les aspirations des deux peuples, une capitale pour l'un et pour l'autre. Merci à vous, Vincent Lemire, votre projet Open Jérusalem, vos derniers livres, collectif Chant Flammarion, Jérusalem, histoire d'une ville-monde. C'est bien, vous me tendez tout. On reconnaît l'animateur de rembobinage chez Aligre, Jérusalem 1900. Collection Point. Au Seuil, l'émission a été réalisée par Valérie Aestaray avec Florent Beauvalet, Linka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard pour la préparation. Et la transition maintenant avec Mathieu Vidard.
Oui, bonjour Jean.
Bonjour.
J'accueille dans un instant le professeur de microbiologie Didier Raoult. Professeur de microbiologie, puis on pourrait dire presque journaliste, puisqu'il publie ses chroniques qui arrivent chaque semaine dans Le Point.
Merci à vous.